Robert et Marie-Cécile, mariés pour la vie au petit peuple de Nevers. Un reportage de Michel Rouget, des photos de Marianne Divet. Ceci est une grande histoire d'amour, loin des papiers glacés, écrite dans l'encre des joies et des peines populaires, celle d'un ouvrier et d'une fille de cheminot, 58 ans de mariage, des regards toujours tendres, et un combat syndical et socialiste indestructible au milieu du petit peuple de Nevers, malgré les déchirures, tel le suicide le 1er mai 1993 de l'ami Pierre Bérégovoy, l'ajusteur devenu Premier ministre. Dans le petit pavillon qui loue rue des Sablons à la sortie de Nevers, entre la Loire et l'autoroute, Robert et Marie-Cécile Gollon remontent ce matin le cours de leur vie. Tout de suite apparaît maman Ida. Chaque fois il y revient, glisse Marie-Cécile. Par respect et reconnaissance envers ma mère nourricière, c'est elle qui m'a construit, répond Robert. Robert Gollon, 79 ans, 1m85, un cœur immense caché dans une armoire bourguignonne. Caché comme le bébé né d'un inceste à l'été 1943 dans une petite ferme de Lyon voisine. Le méfait d'un oncle, sans doute, on le devinera plus tard. Les parents obligent Germaine, la jeune fille mère, comme on disait, à abandonner son enfant à une mère nourricière, à une première, puis une seconde, la bonne maman Ida. Germaine passe quand même voir son fils toutes les 6 semaines, seule, puis avec Maxime, son mari. Robert grandit ainsi, partagé, mais c'est bien avec maman Ida qu'il se construit. À 14 ans, il demande à entrer en apprentissage, boulanger ou menuisier. Germaine refuse. Elle verrait bien son grand gaillard d'adolescent bosser avec Maxime à la ferme. Alors Robert se rebelle. Il plaque l'école sans même son certificat, part chez un paysan faire les foins et les moissons, puis chez un marchand de charbon décharger les péniches. Avant de rejoindre, à 15 ans et 2 mois, les métallos de l'usine Alfa Laval. Il a trouvé une seconde famille, l'usine aux 600 travailleurs. J'étais l'enfant de tout le monde. Le jeune coursier croise un père en syndicalisme, André, qui l'aide à passer son certif, l'entraîne au syndicat CFTC et à la lutte contre la guerre d'Algérie. Mes premières manifs. Il a 16 ans. Il rejoint aussi la JOC, le dynamique mouvement d'éducation populaire chrétien. En filant sur sa mobylette bleue, le soir, après les réunions, il pense au credo « voir, juger, agir », mais surtout à Marie-Cécile. Le jeune jociste n'est pas insensible non plus à Robert, grand, beau et à l'enfance si cabossée. Elle, la fille de cheminot, a au contraire été vernie. Elle s'est construite, abritée dans une famille engagée. Ma mère était à l'APF, l'Association Populaire Familiale. Je me souviens de la machine à laver collective. Mon petit frère et moi, on emmenait la machine d'une famille à l'autre dans une petite charrette. Le père militait à l'ACO, l'Action catholique ouvrière. Je suis donc née dedans toute petite. À 3 ans, j'entendais les gens en réunion. Grandie au sein de l'école dite libre, catholique, armée de valeurs militantes et d'un brevet commercial, elle s'engage donc avec Robert. À l'été 1964, Marie-Cécile Renard et Robert Gollon, 22 et 21 ans, se marient entourés des jossistes de Nevers. Une grande vie de couple engagée commence. Les jeunes mariés sortent souvent de leur appartement 1%, puis HLM. Ils militent maintenant à la CO et surtout à la CFDT, née en cette année 1964. Robert collecte les adhésions, devient secrétaire du syndicat des métaux, est propulsé représentant CFDT au comité d'entreprise de l'usine Alfa Laval, bastion CGT. Marie-Cécile tape les courriers, manie la Ronéo. J'étais la secrétaire de Robert, c'est moi qui ai élevé les 5 enfants, pratiquement toute seule, c'est ce que je voulais, élever mes enfants. Un choix, dont celui d'un seul salaire et des fins de mois difficiles. Cela étant, Marie-Cécile n'est pas du genre à rester femme à la maison. Le collectif, ça me manquait. Hors de la CO, elle s'engage chez les parents d'élèves et dans son quartier HLM. Tous les deux épousent ainsi les luttes qui grimpent alors un peu partout. Chez Alfa Laval, Robert apprend beaucoup. « Mon diplôme, c'est l'école de la vie », aime-t-il à dire. Une école qui va forcément le faire entrer aussi dans la famille socialiste, tendance Mendès France. Au printemps 1968, ils attendent leur troisième enfant. Marie-Cécile est à la maison, Robert à l'usine occupée 3 semaines durant. Le 7 juin, à 4 heures du matin, après 16 heures de négociations, il obtient avec ses camarades des avancées majeures. Les métallos applaudissent, l'école de la vie. Robert a 25 ans, vont suivre les effervescentes premières années 70, quand soudain. Le 18 décembre 1975, à l'usine Alpha Laval, une tôle de 200 kg glisse de très haut et écrase le pied droit de Robert malgré la chaussure de sécurité. Hôpital, 13 mois d'arrêt, une autre leçon de vie. Avec des questions et des certitudes confrontées à un bouleversement, la crise sociale qui commence, après les conquêtes syndicales, arrive la résistance au licenciement, au chômage et le triomphe de la finance. Loin de le freiner, l'arrêt maladie renforce l'engagement de Robert à la CFDT où il se rend avec ses cannes. Et, en mai 1977, 2 mois après sa reprise du travail à l'usine, l'Union régionale de Bourgogne lui propose le poste de permanent départemental créé sur la Nièvre. Robert et Marie-Cécile réfléchissent, discutent. C'est oui. Robert Gollon devient pour 7 ans numéro 2, puis leader de la CFDT du département. Pendant ce temps, Marie-Cécile se met en 4 entre les absences de son syndicaliste de mari, les enfants qui grandissent et ses engagements à l'APEF, devenue en 1976 la CSCV, la Confédération syndicale du cadre de vie, puis CLCV en 1998. En 1978, quand les locataires sont enfin admis au CA de l'office HLM, elle y est élue. Puis vint un nouveau tournant dans leur vie. En 1982, Pierre Bérégovoy, le ministre socialiste des Affaires sociales, débarque à Nevers pour briguer la mairie. Robert, et surtout Marie-Cécile, se lancent pour de bon dans l'action politique. La Nièvre avait besoin de se doter d'une personnalité. Son implantation n'a pas été facile face au maire SFIO de Nevers qui n'appréciait pas son parachutage. Nous étions une petite équipe, une quinzaine, on a fait un travail de fourmi. En mars 1983, Pierre Bérégovoy l'emporte. Est élu avec le ministre-maire Marie-Cécile Gollon, socialiste du peuple. Pierre Bérégovoy rencontre rapidement aussi Robert. Il n'a pas oublié sa jeunesse ouvrière. Plusieurs usines locales sont alors en difficulté et il se renseigne. Sa démarche était de demander aux syndicats ce qu'ils attendaient de lui. Il se trouve que Robert Gollon songe alors à se reclasser. Il a 40 ans, le bon âge pour retrouver un poste, et au bout de 7 ans, c'est bien de passer la main. En décembre 1983, en rencontrant la CFDT, le maire apprend la nouvelle, s'étonne, à moitié, que Marie-Cécile ne lui en ait pas parlé. « C'est un devoir de reclasser Robert », ordonne-t-il. Le poste est trouvé, pas pour autant béni. C'est à l'office HLM de Cosne-sur-Loire, à 3/4 d'heure de route de Nevers. Le syndicaliste CFDT est contraint de signer un contrat pourri qui réduit les revenus de la famille contrainte de se priver de mutuelle durant 2 ans et demi. Le 1er juillet 1984, Robert Gollon se pose au cœur des HLM de Saint-Laurent, quartier qui commence à être miné par la chute de l'industrie locale, le chômage, la paupérisation. Il s'accroche et va retourner la situation. L'équipe qu'il anime montera jusqu'à 22 personnes. L'agence de Saint-Laurent sera citée en exemple. Ce nouvel engagement auprès des plus déshérités lui vaudra reconnaissance. Le 31 octobre 1992, dans la grande salle du palais ducal de Nevers, entouré de ses enfants, collègues, amis et camarades, Robert Gollon est fait chevalier dans l'ordre du mérite national par Pierre Bérégovoy, alors Premier ministre. Marie-Cécile est près de lui, bien sûr. C'est leur combat à eux deux. Élue municipale, elle est aussi assistante parlementaire du député depuis 4 ans, présidente du centre social de son quartier, bientôt chef de file de la CSCV à Nevers. On imagine leur bonheur au retour ce soir-là dans leur appartement HLM. Mais la fausse souffrance n'est jamais loin du bonheur, comme si la fragilité était le lot des gens de bien. L'année suivante, Marie-Cécile voit Robert fléchir. Le nouveau directeur charge la bourrique, dit-il. Il se sent harcelé. Et voilà qu'arrive l'inimaginable drame. Le 1er mai 1993, Pierre Bérégovoy, se suicide au bord du canal. Marie-Cécile avait discuté avec lui le matin. Ces mots ci-dessous disent combien elle reste bouleversée près de 30 ans après. D'autant plus qu'elle voit alors son Robert s'effondrer un peu plus. Au fil des mois suivants, il s'enfonce dans une déprime profonde, tente de se suicider, doit être hospitalisé. L'épreuve est longue, immense, mais ils tiennent bon, ensemble, sans que Marie-Cécile limite ses engagements, au contraire. En 1995, elle devient adjointe au maire, chargée du logement et des quartiers. Robert remonte la pente, marche après marche, et après 4 années d'absence, il reprend la route de Cône et de l'office HLM dont le directeur a été limogé. L'année suivante, il est chargé de suivre une grosse opération de réhabilitation à Fourchambault. Elle le passionne. Pour faire ce type de boulot, il faut aimer les gens, dit-il. Il aime les gens. Alors, à ceux de Fourchambault, on lui ajoute ceux de la cité des bords de Loire, chez lui, à Nevers. La retraite, cependant, arrive vite, le 1er janvier 1999, à 55 ans. Une conquête des syndicats, rappelle-t-il. La possibilité de partir quand on a 40 ans de cotisation pour laisser la place à un jeune. Lui a commencé à bosser à 15 ans et il a beaucoup donné. 2 ans plus tard, Marie-Cécile arrête aussi son travail d'assistante parlementaire. Mais le militant ne connaît pas la retraite. Marie-Cécile, tout juste promue chevalier de la Légion d'honneur pour son action dans le logement, repart pour un nouveau mandat d'adjointe à la mairie. La retraite d'élu, c'est pour 2008 à 66 ans. Depuis, Robert et Marie-Cécile n'ont jamais été retirés, comme on dit encore parfois bizarrement. Robert est resté longtemps actif à la CFDT, à l'Union départementale et à l'Union des retraités, avant de réaliser un gros travail de mémoire, un ouvrage de 170 pages retraçant la vie du syndicat de 1919 à 1986. Malgré son cœur fragile, Marie-Cécile reste engagée à France Alzheimer, où elle est entrée il y a 25 ans pour son père. Elle anime toujours aussi, à 80 ans, un atelier couture au centre social. Les centres sociaux, c'est au ras des pâquerettes, avec des gens au RSA, des femmes seules, au cœur de notre quartier. Je vis avec ça et ça me fait vivre. Les enfants aussi, bien sûr, les font vivre. C'est leur grande réussite. Ils ont fait grimper leur descendance dans l'ascenseur social. 5 enfants, dont 3 sont profs, un restaurateur et un agent immobilier. 7 petits-enfants devenus ou en devenir, médecins, journalistes, profs, ingénieurs, avocats. Il en va autrement, hélas, du côté de la famille socialiste. Une grande amertume perce dans leurs propos. « En février 2017, j'ai préféré me retirer plutôt que de me rendre malade, dit Robert. Les luttes d'appareil, un déchirement pour la gauche populaire à la Gaulon. Quoi qu'il arrive, on doit rester unis, solidaires. » Lors du choc d'avril 2002, Robert a écrit à Lionel Jospin pour le soutenir. Et puis, il y a eu Bérégovoy, Pierre ou Béré, selon les jours, une amitié, des combats communs, leur fierté. Marie-Cécile a aussi quitté le PS en 2018, mais je suis toujours socialiste, insiste-t-elle. Être socialiste, c'est s'occuper des autres, partager les richesses, vivre ensemble. Et ça, ça ne mourra jamais. On a déjà été dans le trou et on s'est ressaisi. Je reste fidèle à mes convictions sociales et socialistes, déclare Robert de son côté, et lui non plus n'est pas du genre défaitiste. 40 ans de chômage de masse, de déclassement, de précarité, de destruction de la pensée des gens, de démantèlement des syndicats condamnés à des actions de défense le dos au mur, qui parlent de ces dégâts. Ne baissons pas les bras. Oui, des solutions existent au quotidien et à long terme. Que la nouvelle génération retrouve dans l'engagement l'utopie nécessaire face aux grandes mutations de notre société. L'engagement, ça enrichit. On a des tas d'amis. À chaque étape de notre vie, pour le logement, le boulot, la santé, les vacances aussi, des gens nous ont aidés. Marie-Cécile et Robert Gaulon, 80 ans, est toujours jossiste. Voir, juger, agir. La sobriété choisie depuis longtemps. Ils vivent avec les 1400 euros de retraite de Robert et les 900 euros de Marie-Cécile. Ils sont toujours locataires dans leur maison de la rue des Sablons. Acheter serait trahir. Et le loyer vient de passer à 802 euros, 23 de plus. Mais cela ne les empêche pas de dépenser pour observer, s'informer, regarder ceux qui agissent aujourd'hui. On prend le monde tous les jours. On nous le met de côté au bureau de tabac. Ils lisent aussi Alternative économique, La Vie, Télérama, le journal du centre pour les nouvelles locales, et ils passent souvent la porte d'une librairie. Leur salle de séjour est tapissée de livres. Domine surtout la politique, le syndicalisme, les évolutions de la société. Je suis en train de lire « La France sous nos yeux » de Jérôme Fourquet, dit Robert. « Ma fille, ajoute-t-il, m'a offert le plus grand défi de l'histoire de l'humanité » d'Aurélien Barrault, sur la crise écologique et sociale. Robert et Marie-Cécile Gollon seront décidément toujours les mauvais gens, comme ceux racontés par Étienne Davodeau dans leur BD préférée à portée de main, là-bas dans la bibliothèque. Un mot de Marie-Cécile. Je revois encore son cercueil exposé et nous hébétés autour. Le 1er mai 1993, après avoir reçu les syndicats, Pierre se trouvait à la mairie et j'avais souhaité le rencontrer pour le dossier logement d'une famille en difficulté. Je l'ai trouvé indécis. Il disait « Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ?» Pour un dossier somme toute très simple, il était déjà déstabilisé. En fin d'après-midi, un ami socialiste vient nous prévenir de ce qu'il s'était passé au bord du canal. Pierre s'était donné la mort avec l'arme du garde du corps. La suite est assez floue, mais ce que j'ai gardé à l'esprit, c'est cette file ininterrompue de Nivernais lorsque son cercueil fut exposé au palais ducal. Pour moi et mes camarades, cette nuit-là, nous l'avons veillé et surréaliste. Je revois encore la grande salle du palais ducal, son cercueil exposé et nous hébétés autour. Je me rappelle avoir été acheter des roses rouges et le fleuriste me demandant la destination des obsèques, à ma réponse il avait compris. La venue de François Mitterrand et son discours sur les chiens nous ont beaucoup marqués. Lors de la cérémonie à la cathédrale, étant proche de l'église à ce moment-là, j'intervenais au pupitre avec beaucoup d'émotion. Pour moi, c'est toujours une grande émotion quand je me rappelle cet épisode grave, surtout ayant entraîné le geste de Robert l'année d'après. J'en ai toujours une boule au ventre.